reportage, interview, expérience radiophonique. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
La vulgarisation scientifique est de plus en plus présente sur Internet, mais son absence est remarquée dans les médias. Quelle place aujourd'hui pour les vulgarisateurs et les vulgarisatrices? Quel impact sur les jeunes scientifiques et leur formation? Pour la première émission de l'année, le Labo des Savoirs vous propose la transcription au format audio de la visioconférence organisée par le Lab Sirène qui a eu lieu le 10 décembre 2020 sur Twitch. Bonne année au Labo des Savoirs!
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle visioconférence de Lab Sirène. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la vulgarisation avec quatre invités qui vont se présenter. Je vais commencer par Dunia, si tu veux bien nous dire un petit mot, expliquer qui tu es.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Alors, j'aurai une double casquette ce soir, puisque je représente à la fois le Labo des Savoirs, l'association culturelle dans laquelle je suis la rédactrice en chef, et dont on va parler, je pense, un tout petit peu plus tard, mais aussi le Café des Sciences, encore une association de vulgarisation scientifique, parce que je crois que c'est le sujet de ce soir.
Exactement.
Donc, pour le coup, je suis la présidente.
Je suis aussi accompagnée de Clémentine. Clémentine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, en attendant que Clémentine retrouve le pouvoir de parler, je vais laisser la parole du coup à Virginie, si tu peux te présenter.
Oui, bonsoir. Du coup, moi, c'est Virginie et je suis du coup étudiante en Master 1 Communication et Culture Scientifique et Technique à l'Université de Grenoble-Alpes. Voilà, en gros.
D'accord, merci. On est aussi accompagné de Sabrina, que je vais laisser se présenter.
Bonjour, je suis Sabrina Carpi. Donc, moi, je suis chargée de mission à l'UFR Sciences et Techniques pour tout ce qui est diffusion de la culture scientifique et technique à l'UFR. Et je suis ravie d'être là avec vous ce soir. C'est un plaisir.
Donc, on va commencer peut-être par une première thématique qui est la question de... On parle vulgarisation, ça touche à la culture scientifique et technique et industrielle. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que c'est la culture scientifique. Est-ce que, Dunia, par exemple, tu pourrais nous donner une première définition?
Vaste question déjà pour commencer, mais la culture scientifique, comme son nom l'indique, est une culture à part entière, celle de la transmission des sciences techniques et industrielles à l'ensemble de la population, que ce soit sous forme de livres ou que ce soit par le biais de vidéos, de podcasts, et dans les musées et muséums que l'on peut trouver sur l'ensemble de la France. Vraiment, la transmission des savoirs, la transmission des cultures, et grâce aux médiateurs et aux médiatrices que l'on peut trouver dans les musées ou lors des ateliers, et que vous avez peut-être croisé pendant la fête de la science qui a lieu en octobre tous les ans.
Et du coup, est-ce que Virginie, Sabrina, vous avez une définition peut-être différente ou des éléments pour compléter la définition que Dunia nous a donnée?
Je trouve que sa définition est hyper complète. Enfin, il y a vraiment tout a été dit. Je pense qu'il y a aussi le côté aussi dans la culture scientifique. Je rajouterais juste ça très rapidement. Je pense qu'il y a aussi le côté transmission des savoirs, mais via de la formation, que ce soit de la formation universitaire, scolaire, ou même dans la vie de tous les jours, on peut trouver un peu de culture scientifique un peu de partout. Quoi.
D'accord, merci beaucoup. Sabrina, un complément peut-être?
Oui, pour moi, la culture scientifique, c'est réussir à expliquer des concepts compliqués avec des mots qui sont à la portée de tous. C'est le travail, je trouve, de tout un chacun. Dès qu'on fait de la science, dès qu'on la comprend, eh bien, il faut l'expliquer aux autres. Je trouve que c'est le rôle des étudiants qui sont chez nous, dans nos parcours. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, effectivement. Et il faut être formé à ça parce que c'est pas toujours facile, en fait, de trouver les bons mots, la façon juste. Et en fonction du public, on va pas expliquer quelque chose, puisque les attentes vont être différentes, que ce soit pour un enfant de 8 ans, que pour plutôt un ado, ou encore un public senior, par exemple, voilà, qui a peut-être plus de vécu. Et je trouve que c'est justement la diversité du public et se mettre à la portée de ce public-là, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant.
Et Clémentine me dit dans le chat qu'elle est tout à fait d'accord avec les définitions que vous donnez. Et ce que tu dis, Sabrina, me permet de faire un pont aisé avec ma question suivante. C'est cette culture scientifique, quelle est, entre guillemets, sa place dans la société et surtout aussi quelle est sa place dans le débat public aujourd'hui? De votre point de vue, comment vous voyez ces choses-là? Parce qu'on est dans une période de pandémie, donc la science est devenu un acteur majeur du débat public. Comment il est perçu? Comment cette culture scientifique, technique et industrielle, elle intervient et elle interagit avec ça?
Eh bien, elle est essentielle. Qui plus est, en ce moment, les liens entre la science et la société, la place vraiment de la culture scientifique à proprement parler, pour tous les publics, à tous les âges, devrait être essentielle, devrait faire partie du paysage sociétal. C'est-à-dire qu'on devrait retrouver la science, sa popularisation et son accessibilité vraiment dans tous les domaines, normalement, à la télé, dans les journaux, dans la façon dont les élus peuvent nous adresser leurs recommandations, surtout en ce moment. Et ce n'est pas forcément le cas. Notamment, j'ai envie de dire, mais on pourra peut-être en parler plus tard à la télé, la science est présente, mais pas forcément de la bonne façon, et pourtant, elle est essentielle et indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure et ce qui nous arrive. Pandémie, la 5G, le réchauffement climatique, quelle est notre place dans l'univers? Toutes ces réponses, ces ébauches de réponses que peuvent apporter la science et la culture scientifique doivent et devraient faire partie vraiment de notre société, au même titre que la peinture, la musique, le cinéma et tous les autres arts finalement.
Virginie, Sabrina, Clémentine, est-ce que vous avez des compléments, des réactions, des remarques?
Ouais, non seulement elle est essentielle, mais en fait, je trouve qu'actuellement, la science, au niveau de la place publique et sociétale, je la trouve assez mal comprise des fois. Ça fait un petit peu peur et je trouve que à ce niveau-là, il y a besoin de faire un gros travail là-dessus parce que on entend souvent parler justement de ces innovations au niveau, comme ça a été mentionné, 5G, les vaccins, etc. Mais il manque encore, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que le public, en tout cas, s'approprie un peu toute cette science. Et c'est un gros travail quand même qui nous attend.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement un gros travail à faire. Je pense que c'est le rôle des associations. On a parlé du Labo des Savoirs donc je pense en particulier, mais beaucoup d'autres associations qui sont là pour transmettre l'information et pour l'expliquer aussi. C'est ça, en fait. Il faut beaucoup de pédagogie pour pouvoir intégrer des concepts parfois un peu compliqués. Et également rétablir ce que c'est qu'un fait scientifique, comment c'est prouvé, comment c'est démontré, c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup et qu'on essaie de transmettre à l'université, c'est avoir un esprit critique. Et donc, c'est aussi se dire, est-ce que cette information, elle est correcte? Est-ce qu'elle a été démontrée? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut la diffuser si on n'a pas vérifié la source, etc., etc.? Donc, il y a aussi une tournure de l'esprit et qui est nécessaire et qui doit être véhiculée par beaucoup de médiateurs, en fait.
Clémence me fait parvenir par message que, de son point de vue, le but est avant tout d'encourager les personnes à devenir curieuses et à chercher par elles-mêmes les informations. Cette culture scientifique, technique et industrielle, elle se fait grâce à des acteurs, et alors ils sont très divers. Il y a les, les CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle. Il y a les musées et il y a aussi les vulgarisateurs dont vous êtes en partie. De votre point de vue, comment ces acteurs ils s'articulent, comment ils participent et sûrement différemment à cette diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle?
Vaste question également, ce sont des pratiques très différentes. Sabrina pourra en parler bien sûr, mais il y a tout le volet formation à l'université. Les centres de culture scientifique, technique et industrielle apportent un échange avec le public qui est extrêmement important, un lien, une curiosité qui est apportée vers les publics de tout âge qui viennent et pas non seulement que les familles comme on pourrait le croire, et dont la place est essentielle dans la culture scientifique. Et un troisième volet, ce sont bien sûr les vulgarisateurs et les vulgarisatrices que l'on peut trouver sur Internet de tout format différent, la vidéo, le podcast, le blog, mais aussi le dessin, les livres, toutes les interventions que vous pouvez entendre même à la radio. Ce sont trois pans différents, essentiels, complémentaires, et ce sont des acteurs qui travaillent ensemble, pas toujours facilement. Il y a encore des ponts qui doivent se créer. Heureusement, c'est en train de se faire. Ça a beaucoup changé depuis ces dernières années et les vulgarisateurs et vulgarisatrices travaillent avec les CCSTI, travaillent avec les universités et tout ceci fait un très bon mélange qui se regroupe d'ailleurs sous une autre association qui s'appelle l'AMSTI, qui est le réseau des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, et dont beaucoup d'acteurs sont regroupés pour essayer de travailler ensemble, créer des projets, faire des groupes de travail et faire avancer la culture scientifique. Donc ça bouge en France. On n'a peut-être pas tous les moyens qu'on voudrait pour remettre la science dans la société, mais on travaille aussi beaucoup à l'espoir, la curiosité, la passion pour que ça puisse se faire malgré tout.
Virginie, Sabrina, Clémentine, est-ce que vous voulez ajouter des éléments à cette avancée très complète de Dounia? Et c'est vrai que pour préparer la conférence, je me suis un peu renseigné, comme toute personne compétente qu'il se doit. Et ce qui est très étonnant, c'est que les CCSTI sont des structures extrêmement récentes. Le premier, celui de Grenoble, il date du tout début des années 80. Le grand public connaît peut-être plus facilement aussi la Cité des sciences et de l'industrie qui est à Paris. Et c'est vrai que quand on fait une comparaison avec la grande culture, celle des musées, des opéras, on est encore à un état de grande jeunesse pour la culture scientifique et technique. Et justement, est-ce que cette jeunesse, elle participe pas aussi à une pluralité de nouveaux acteurs et à une plus grande diversité qu'on pourrait le voir dans la culture classique?
Ouais, bah je pense que tous les vecteurs sont bons. Hein. Il faut multiplier ces vecteurs-là tant qu'ils permettent vraiment de diffuser, de faire parler et d'expliquer, hein, parce que c'est vrai que souvent on dit la recherche elle se fait dans un labo par une personne, des chercheurs qui sont en groupe, des équipes, ça peut être par des équipes aussi, mais tout ça c'est fait pour la communauté, c'est fait pour on va dire le de la science fondamentale, c'est fait pour de la recherche appliquée, et je pense que c'est le devoir, c'est de partager tout cela. C'est vrai pour ce qui se fait actuellement, donc la recherche de pointe, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui existe et tout ce qui a existé par le passé. Je pense par exemple à l'histoire des sciences, comment des concepts sont arrivés. La thermodynamique, c'est un sujet qui est passionnant, et c'est vrai que c'est aussi, enfin ça fait partie de la culture. C'est l'histoire des sciences, c'est un vrai point d'accroche qui permet d'expliquer beaucoup de choses, et vraiment ça peut être les médias, les supports peuvent être complètement diversifiés, et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on peut toucher, je pense, le plus grand nombre de personnes.
Pour compléter un petit peu cette question autour des acteurs de la vulgarisation scientifique, etc. Je trouve que ces dernières années, j'ai vu pas mal apparaître, notamment sur les plateformes de vidéos comme YouTube, ou même là, ça commence à arriver sur Twitch. Hein. L'exemple est ce soir, on fait un live autour des sciences, etc. Il y a énormément en fait, de nouveaux vidéastes qui se lancent pour faire du contenu de vulgarisation autour de l'astronomie, même autour de l'histoire, tout simplement, et avec du contenu vraiment recherché, bien détaillé et franchement hyper bien dans des formats très courts. Et je trouve que ça amène vraiment les gens à se poser des questions et justement à aller après, derrière, rechercher par eux-mêmes, comme disait Clémentine tout à l'heure, que les gens cherchent par eux-mêmes. Et puis aller ensuite derrière lire des livres, aller dans les musées. Et je pense que c'est une bonne peur d'entrée à prendre. Après, c'est quand même, à mon sens, hyper difficile de se faire sa place en tant que vidéaste sur ces plateformes.
Tout à fait. Ça fait quelques années, en effet, que le paysage s'est énormément diversifié. Parce que aussi, il y avait un trou d'air provoqué par l'absence de la science dans beaucoup de médias. Et très honnêtement, moi, je ne peut penser qu'à la radio quasiment, puisque même la presse écrite est en énorme difficulté en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y avait un énorme trou d'air et des vulgarisateurs, des curieux, des passionnés se sont vraiment engouffrés dedans et créent ces vidéos, notamment sur YouTube, mais pas que. Ils se lancent aussi sur Twitch et sur l'ensemble même des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok aussi. On a un envahissement positif de l'espace internet de vulgarisation scientifique.
Et puis surtout, ça amène justement ces vidéastes ensuite à travailler justement avec les institutions de recherche ou même à monter leur propre livre ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de travailler. Bon, après, c'est précaire, mais...
On a une section complètement dédiée à la fin de cette conférence, justement, sur les vulgarisateurs les plus récents. Mais c'est très bien de le mentionner, parce que ça me permet de faire une super transition, parce que dans les acteurs de la vulgarisation, il y a une institution vénérable et très ancienne, qui sont les universités. Et c'est le sujet de notre prochain thème, puisque les universités font la vulgarisation, et on a Sabrina qui est là pour ça. Est-ce que Sabrina, tu peux nous indiquer un petit peu comment se fait la vulgarisation à l'université, notamment au niveau des laboratoires? Qu'est-ce qu'ils font? Pour qui? Est-ce que cette action de vulgarisation, elle est dans la mission des enseignants-chercheurs? Ou est-ce que c'est un hobby pour beaucoup d'entre eux?
Alors, je pense vraiment que c'est une mission de service public. Hein, ça fait partie de nos missions d'enseignants-chercheurs. Mais comme on le disait, c'est vrai que ça demande peut-être un petit peu de formation pour s'adapter au public ciblé. Donc, en principe, ça se fait quand même assez naturellement parce que que ce soit les maîtres de conférences, que ce soit les chercheurs, ils ont l'habitude de parler et souvent, ils font ce métier parce que ils aiment le contact, ils aiment échanger, transmettre. Donc voilà. Donc des fois on a besoin peut-être un petit peu d'un petit coup de pouce, d'un échange de bonnes pratiques en fait avec les collègues. Et puis on se lance sur les stands de la Fête de la Science. Ça commence souvent comme ça. Il y a plein d'actions qui peuvent être vers les écoles, par exemple. On peut faire venir les écoles aussi à l'université. Pour faire des expositions, par exemple. On peut faire venir les écoles au Muséum d'Histoire Naturelle. Souvent, on travaille beaucoup avec le muséum. Alors, souvent dans le cadre de la Fête de la Science, puisqu'ils accueillent hein, des chercheurs sur des thématiques. Et après, l'autre façon de faire aussi, c'est d'aller dans les lycées. Donc, il y a Passeport Recherche qui existe pour ça, où un chercheur va dans les classes de lycée pendant une année, il va suivre un groupe d'élèves de première, de seconde, qui vont faire un projet. Et on va également les accueillir à la fac, dans les labos, pour leur montrer et partager notre recherche avec eux. Donc, y a vraiment plein d'actions qui existent comme ça. Je sais que j'ai des collègues en M2, énergie nouvelle et renouvelable, qui font participer leurs étudiants de Master 2 vers des collèges, par exemple, et qui font tout un travail d'animation pendant l'année avec ces élèves. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est l'affaire de tous. Après, je pense que le rôle de l'enseignant, ça va être de... d'essayer de manager un petit peu. Mais c'est bien aussi voilà, d'investir des élèves. Moi, j'ai fait un passeport recherche l'année dernière et c'est vrai que c'était super de voir des élèves de première qui s'accaparaient les sujets, qui faisaient des recherches. Alors, on leur expliquait quelle était la méthode, comment il fallait comment présenter, etc. Et voilà, il faut souligner le travail formidable aussi des enseignants à ce moment-là du lycée, du collège, enfin, qui accompagnent et qui sont vraiment demandeurs. C'est super.
Est-ce que Virginie, Clémentine, Dounia, est-ce que de votre point de vue, l'université a toujours été identifiée par vous, dans votre action de vulgarisatrice, comme étant un acteur de la vulgarisation, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est à rigueur surprenant? C'est vrai que moi, quand je pense université, je pense évidemment formation, je pense recherche, et c'est vrai que c'est que dans un troisième, voire quatrième temps qu'on pense à son rôle de diffusion de la culture, et de la culture scientifique et technique et industrielle. Vous, comment vous le voyez de votre point de vue?
Alors, juste si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'il vient de dire au niveau des chercheurs, pour dire qu'en fait, c'était souvent très agréable de faire de la vulgarisation avec les chercheurs, en tout cas de la médiation, parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils sont en train de faire, en fait, et qui ont envie de le partager. Du coup, c'est toujours plus agréable à faire, pour les personnes qui sont là, de voir quelqu'un qui est en face, qui est passionné et qui a juste envie de vous montrer ce qu'il fait tous les jours dans son laboratoire. Donc, pour ça, pour moi, il y a quand même pas mal de chercheurs qui sont très bons pour ça. Et l'université les encourage souvent, notamment avec la Fête des Sciences, ce genre de choses, dans ce sens-là, en fait, à partager ce qu'ils aiment.
L'université, ça reste quand même un haut lieu, on va dire, de culture scientifique, ne serait-ce que par la présence des chercheurs et des chercheuses, qui sont, il me semble, les premières personnes à peu près à produire du savoir accessible aux humains et aux humaines que nous sommes. Et ensuite, il y a un rôle des médiateurs, des vulgarisatrices, de diffuser ces connaissances. Mais l'université reste le lieu de production de ces connaissances scientifiques. Et par-delà, il y a nous également à produire ces connaissances.
Et je pense, je rebondis sur ce que vient de dire Dounia, il y a un vrai rôle d'accompagnement de la part des médiateurs aussi. En fait, ce qui marche, et nous, ce qu'on aime faire à la Fac des Sciences, c'est ce binôme-là. Et c'est pour ça, j'en profite, je fais un peu de pub. Cette année, on fait l'événement Brain and Breakfast avec le Labo des Savoirs, en collaboration avec le Labo des Savoirs. Parce que justement,
on fait le lien.
et c'est ouais voilà c'est vraiment je trouve un plus parce que finalement il y a une façon d'aborder les thématiques, il y a vraiment une pensée qui doit être diffusée et libérée aussi quelque part et je trouve que que les médiateurs font ça très très bien, en fait ils vont chercher l'information fine et aussi essayer de poser les questions pour qu'on réussisse à bien aussi faire passer un message, et des fois reformuler aussi parce qu'on va dire quelque chose d'une façon peut-être un petit peu trop, avec un vocabulaire un petit peu trop scientifique. Et je sais qu'il y a vraiment un travail incroyable de recherche qui est fait. J'ai vu Dounia et les gens du Labo des Savoirs traiter certains sujets. Je me souviens encore de Rodolphe Turpo qui avait parlé de l'attaque zombie. C'était l'année dernière à Halloween et c'est un sujet qui finalement est très très proche de la pandémie, hein, maintenant qu'on a un peu de recul là-dessus. C'est vrai qu'il y a des similitudes avec ça et je trouve que le travail qui avait été réalisé par tous les médiateurs du Labo des Savoirs avait été formidable sur ce sujet.
I'm incurable and nothing else behaves like me.
de Guided by Voices.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
L'université, okay. elle participe à, comme acteur de la vulgarisation, mais c'est aussi et avant tout un centre de formation. Et il existe des formations de vulgarisation. Et justement, Clémentine et Virginie, vous êtes dans un master de culture scientifique et technique. Est-ce que, alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est comme formation que le master que vous faites à l'université de Grenoble, si je ne me trompe pas?
Eh bien, donc en gros, c'est sur 2 années. Et le but pour nous, c'est d'apprendre à par plein d'outils différents, en fait, c'est ça qui est plutôt bien, je trouve, comment diffuser la science un petit peu avec plein d'acteurs différents aussi. Donc, c'est vraiment un master où on se forme pour essayer de rendre le plus accessible possible la science. Après, je pourrais vous dire toutes les matières qu'on a, mais je pense pas que c'est le plus important. C'est vraiment on a des outils, enfin on nous donne des outils pour essayer de faire au mieux, pour redistribuer la science à tout le monde, on va dire. Je sais pas, Virginie, comment tu veux le dire toi, mais voilà.
Oui, c'est ça, c'est de pouvoir développer nos compétences, en tout cas en communication, et être polyvalent pour savoir un petit peu comment cette culture scientifique elle est construite, et surtout comment aussi les stratégies autour des recherches scientifiques, comment c'est fait, et comment faire le lien justement entre recherche scientifique et vulgarisation, médiation en tout cas scientifique dans différentes animations ou d'autres événements. Bon, cette année, c'était un peu compromis de faire la fête de la science pour nous, mais effectivement, par exemple, on devait faire une animation scientifique, démontrer certains concepts scientifiques. Bon, ça n'a pas pu le faire, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans ce master.
Comment vous en êtes venu à vous dire « je vais m'orienter vers un master de vulgarisation » ? Quel est votre parcours à la base ? Est-ce que vous êtes scientifique ou plutôt communication, journalisme ? Le master, à la fin, il débouche sur quel type de métier, par exemple ?
C'est hyper varié. Alors du coup, pour répondre, moi, à la base, j'ai fait un master en géographie avec une spécialisation en environnement. Et derrière, j'ai commencé à travailler un petit peu... Dans tout ce qui était risque d'inondation et ouvrage hydraulique. C'était pas quelque chose qui me passionnait finalement, et j'ai décidé de me reconvertir. Donc je suis un peu tombée dans la médiation numérique. Et en 2020, le Covid est arrivé, et j'ai décidé justement de sauter le pas en me disant j'avais envie de continuer à transmettre des connaissances autour des sciences. J'avais envie de revenir vers les sciences un peu plus, pas rester que sur le numérique. Et du coup, j'ai décidé de postuler au master parce que je le connaissais. Ça faisait 2-3 ans que je le connaissais, que je côtoyais des étudiants de ce master qui me disaient « Viens, c'est génial !» Et du coup, j'ai décidé de postuler à ce master-là. Donc, je ne le regrette absolument pas pour l'instant.
Et il faut savoir qu'on a plein de profils différents dans le master aussi en tant qu'étudiant. Et moi, je trouve ça super enrichissant parce que du coup, chacun apporte son background, en fait. Du coup, moi, j'ai une licence de chimie de Sorbonne Université, et en fait, j'ai la chance d'avoir le double diplôme. J'ai chimie et médiation scientifique, et du coup, un peu dans la continuité de la médiation scientifique, et en fait, avec la recommandation des professeurs qui connaissaient la plupart des masters de communication et médiation, et je suis venue à Grenoble, et vraiment, je ne regrette pas parce que c'est entre les étudiants qui arrivent tous avec leur bagage, les professeurs qui nous permettent d'en avoir encore de nouveau, et je suis très heureuse d'être là en tout cas.
Et du coup, aujourd'hui, vous avez l'impression de faire une formation en sciences, une formation en communication, ou vraiment une formation spécifique? Moi, je suis le genre de personne qui parfois aime bien ranger les choses dans des petites boîtes. Alors du coup, ce master, c'est un master de sciences, c'est ou pas, ou c'est vraiment un master qui lui est propre et qui, du coup, justement, ça lui donne sa spécificité? Comment vous le percevez, vous?
Je dirais que c'est un entre-deux, en fait, finalement. Enfin, on est dans un master info-communication, Mais en fait, comme on est vraiment tous des passionnés autour des sciences, et puis on a énormément, enfin, on vient tous finalement de master ou de licence en sciences, chimie, géologie, biologie, enfin, vraiment c'est très complet. On a même des gens qui viennent d'histoire, donc voilà, tout le monde peut venir. C'est pas fermé finalement. Personne n'est arrivé d'infocom ou de journalisme. En fait, on s'entraide énormément et on se donne des infos de science entre nous. Donc en fait, on contribue un petit peu en fait aussi entre nous à s'entraider et à se donner des bonnes connaissances dans les sciences. Après, on va aller chercher auprès des acteurs aussi scientifiques.
J'avais une question, en fait, je me demandais si justement votre, est-ce que pour exister ce master, il doit avoir lieu dans un lieu de formation en fait pluridisciplinaire. Est-ce que l'université de Grenoble dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est très, elle est plutôt, enfin je connais Joseph Fourier, je ne sais plus si elle a peut-être changé de nom, ça a dû changer de nom depuis le temps. Mais du coup, je me disais, est-ce que c'est vraiment pluridisciplinaire ou est-ce que c'est plutôt sciences techno, du coup?
Donc en fait, on n'a pas vraiment, si vous voulez, de cours en sciences, même si on pourrait, parce que du coup, maintenant, c'est tout sur la même fac. C'est juste qu'on va discuter avec eux, en fait, avoir pas mal d'échanges avec tous les laboratoires qu'il y aura sur, qui dépendent du coup de l'université Grenoble-Alpes. Donc c'est pas, on va dire, une nécessité d'être d'avoir une université qui aura les départements de sciences parce qu'on n'a pas cours avec eux spécialement, mais dans tous les cas il y aura de forts échanges parce que ça va être avec eux qu'on aura en fait qu'on sera au quotidien pour créer nos contenus, notamment pour les cours.
Tout à l'heure quand tu présentais ton parcours, Clémentine, tu disais que tu avais fait une licence de chimie avec une mention supplémentaire en médiation. Ça me permet de faire une merveilleuse transition avec mon point suivant, c'est comment les formations de scientifiques, donc dans les facultés des sciences ou éventuellement les écoles, comment elles intègrent les questions de vulgarisation, comment cette mention-là est apparue, et est-ce que les formations scientifiques, elles amènent à créer des vocations de vulgarisateurs?
Alors peut-être pour répondre à une partie de la question, du coup, moi ça a été assez nouveau ce double chapeau en fait à la faculté où du coup c'est une majeure en sciences, donc qui peut être n'importe laquelle, chimie, géologie, enfin sciences de la nature, et une mineure du coup qui va être un petit peu plus transdisciplinaire, ça a seulement quelques années, et après c'est vraiment les étudiants qui de leur bon vouloir vont prendre ces mineurs-là. Donc après, il y a des initiations toujours dans les premières années, mais c'est à chacun en fait de voir s'il veut vraiment s'investir dans cette partie-là. Après, je sais que voilà, à Sorbonne Université, ils essayent maintenant d'avoir ces profils un petit peu plus justement qui poussent à la médiation avec des matières qui vont être destinées aux personnes à apprendre justement à comment communiquer avec le public. Après, je m'avance pas pour les autres universités parce que du coup, je ne sais pas du tout.
Entre guillemets, l'appellation vulgarisation, elle est due au fait que la façon de véhiculer la culture scientifique et technique, elle se fasse dans le langage entre guillemets vulgaire, en opposition au langage parfois technique, voire jargonnant que les scientifiques peuvent avoir. Ou est-ce que ça englobe peut-être plus largement des méthodes, des approches qui couvraient pas un scientifique, et donc évidemment des compétences spécifiques aux vulgarisateurs que n'aurait pas le scientifique? Quelle est votre perception sur cette question?
Alors, si je peux me permettre, du coup, je vais essayer de casser un mythe. Les vulgarisateurs et vulgarisatrices sont des scientifiques dans la grande majorité et même à très haut niveau. La plupart des gens que vous allez voir sur YouTube, que vous allez voir en podcast, créer des ouvrages, sont des scientifiques en vérité de haut niveau, mais qui ont choisi de véhiculer leur savoir par la vulgarisation. Il y a une étude qui date de 2012 qui a été réalisée par Tania Louis sur le profil des vidéastes, et elle a montré que la plupart de ces vidéastes, de ces gens qui sont sur YouTube, ont Bac plus 5. Ce sont des gens extrêmement pointus dans leur domaine et qui peuvent être des conférenciers, mais ils ont juste adapté leur niveau de langage, ont évité le jargonneux, ont préféré des métaphores, ont décidé de rendre ce savoir accessible sans qu'on ait eu besoin de faire un Bac plus 5, un Bac plus 3 ou quoi que ce soit dans ce domaine, pour que la curiosité et la connaissance puissent être communiquées. les vulgarisateurs sont des scientifiques et ce ne sont pas des gens très vulgaires, quoique ça dépend, ça peut arriver.
Pour compléter un petit peu, je dirais aussi que les vulgarisateurs sont des scientifiques, mais en plus c'est des gens vraiment très très passionnés par ce qu'ils font et qui cherchent vraiment à ce que le plus grand nombre puisse justement s'intéresser à ces questions autour des sciences.
Oui, complètement. Hein, c'est toujours un petit peu difficile parce que parfois on est obligé des fois de simplifier un concept quand on veut le vulgariser, peut-être d'être un petit peu moins précis, par exemple sur des chiffres. Donc, des fois on a un résultat numérique et on veut dire on a trouvé 7,6 10-3, et après voilà, on va dire bon, on a trouvé quelque chose de l'ordre de 1/100, quoi, voilà. Mais c'est pas grave, c'est finalement ce qui compte, c'est de pouvoir vraiment essayer d'atteindre le plus de personnes possible en utilisant effectivement un langage. On va moins s'attacher à dire le mot exact, voilà, le chiffre à la virgule près, etc. Puisque l'important, c'est de faire passer un message et ou de raconter une histoire. Hein, c'est ça l'idée. Et si ce message passe, si l'histoire est comprise, je pense que c'est gagné dans ce cas-là.
Mais justement, toi, Sabrina, qui enseigne à l'université, pour les étudiants que tu as devant toi, quelle est leur perception de la vulgarisation ? La vulgarisation, ce n'est pas un peu une autre facette de l'enseignement hors système éducatif traditionnel ? Comment ça s'articule entre la formation académique et la vulgarisation ? Est-ce qu'elles sont complémentaires ou parfois concurrentes ?
Moi, je prends l'exemple, je fais pas mal de projets interdisciplinaires avec des collègues, par exemple, mathématiciens, des collègues qui sont plutôt des thermiciens ou d'autres qui travaillent en géologie, voilà. Et moi, je suis physicienne de formation. Et la première chose qu'on a dû faire, en fait, quand on travaille dans un domaine interdisciplinaire comme ça, c'est de trouver un langage commun. Et parce qu'on n'appelle pas les choses de la même façon, en fait. Mais on parle souvent des fois de la même chose, mais on a des façons de les appeler qui sont assez différentes. Et donc, finalement, dans ce travail-là, dans l'élaboration de projets interdisciplinaires, le premier travail, c'est de vulgariser, d'expliquer à nos collègues comment on fait, comment on travaille, jusqu'à trouver un langage commun. Et après, une fois que ce langage est trouvé, là, on peut aller vraiment dans la profondeur du sujet, dans sa mise en œuvre, qu'elle soit numérique ou appliquée. Mais c'est assez passionnant du coup. Donc ça, c'est auprès des collègues. Après, au niveau des élèves, donc on fait un cours qui va durer, par exemple, qui prend 5 ECTS, donc qui va durer 48 heures, et qui démarre en septembre et qui finit en décembre. On va forcément très en profondeur dans un sujet, on va développer des équations, on va donner beaucoup de détails. Si on fait des cours plus pour un public, par exemple, un peu différent, hein, si je ne m'adresse pas à mes étudiants physiciens, mais que je vais plutôt m'adresser à des étudiants qui font des sciences de la Terre et l'univers et qui n'ont pas cette même connaissance des équations et de la physique à proprement parler, là, je vais essayer plutôt d'être dans la vulgarisation. Et ce qui va vraiment m'importer, ça va être finalement que... c'est ce que disait Dunia tout à l'heure, hein, c'est de les intéresser suffisamment au sujet pour qu'après ils aient envie de faire leur recherche par eux-mêmes. Et voilà, donc je pense que quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a réussi à franchir une étape et qu'on motive les gens.
Est-ce que de votre point de vue, la vulgarisation, elle est parfois créatrice de vocation scientifique ? Donc j'ai vu un super vulgarisateur et du coup j'ai envie de faire des sciences. Moi je cache pas que avoir regardé C'est pas sorti pendant toute mon enfance a beaucoup influé sur le fait de choisir les sciences comme projet d'études. Mais est-ce que de la certaine manière aussi, est-ce que le fait d'étudier les sciences, ça amène pas naturellement à avoir envie de les vulgariser ?
C'est pas impossible que du coup, à un détour d'un cours, on découvre une notion, on découvre même parfois juste une équation, un concept qui nous fascine peut-être tellement qu'on a envie de le dire à tout le monde. C'est peut-être ça la première étape de la vulgarisation. C'est « Oh, j'ai découvert les trous noirs, je savais pas ce que c'était, je savais pas que ça existait, mais c'est génial ce truc. Et t'as envie de souder tout le monde avec, t'as envie d'en parler à ton frère, à ton père, à ta mère, à ton grand-père, à tout le monde. Bah, c'est peut-être comme ça que ça peut commencer la vulgarisation. Ça peut commencer en effet avec un ouvrage, avec C'est pas sorcier. Notre génération a été bercée à C'est pas sorcier. Et je pense qu'en effet, il y a eu beaucoup de vocations qui ont été créées, des vocations scientifiques, vraiment, pas forcément de vulgarisation, mais de scientifiques, qui ont été créées parce que un ouvrage a croisé le chemin, parce que on est tombé sur peut-être La Nuit des Étoiles, qui passait encore à l'époque à la télé, et on s'est intéressé petit à petit à ces choses. Ça peut même être dans la fiction, dans les séries, dans voilà des choses vulgarisées mais mélangées à de la fiction. Et ça amène à se poser des questions. Et à partir du moment où ça commence à cogiter, où on essaye de regarder sur Internet, quand Wikipédia existait peut-être pas, mais alors à la bibliothèque, et on se pose la question, on se demande, bah, peut-être qu'en effet, ça crée des chemins, ça crée un futur ou une future scientifique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue la vulgarisation.
Moi, je suis née de La Nuit des Étoiles. Hein, ah. Uber Eats, c'est comme ça qu'a commencé ma grande passion pour les planètes et la planétologie. Ça a démarré de là. Donc ouais, effectivement, c'est pour ça aussi peut-être que j'y attache autant d'importance, parce que finalement on y puise de l'énergie, on y puise de l'envie et après voilà. Et quand on a compris les choses, c'est tellement bien d'essayer de les transmettre, donc c'est un vrai plaisir, en retour.
Ouais, effectivement, pareil, hein. Moi j'ai regardé C'est pas sorcier toute mon enfance, j'ai essayé de louper le moins d'épisodes possible, du coup à un moment on m'a dit « faut que tu fasses quelque chose dans ta vie », clairement, et je me voyais pas, je savais pas trop ce que je voulais faire, effectivement, mais en repensant à C'est pas sorcier, je me disais « oh, j'ai trop envie de travailler, de faire quelque chose avec les sciences », alors j'étais très mauvaise en physique, j'étais très mauvaise en chimie, j'étais pas terrible en SVT, non plus vraiment, hein, mais finalement je me suis j'ai continué un peu ma voie en essayant de faire un entre-deux, donc en partant vraiment dans la géographie, puis après en me disant mais en fait c'est peut-être pas la géographie qui me passionne, mais c'est de dire tiens, je vais aller voir les gens, puis je vais leur dire lis ce livre, fais ça, regarde ça, tu vas voir, c'est incroyable, enfin c'est vraiment d'aller à la rencontre du public en fait, pour leur apporter le maximum d'émerveillement, du mieux possible en tout cas. Et je pense que c'est parti un petit peu de ces émissions de vulgarisation qu'on avait à la télé.
Ouais, et puis peut-être pas que les émissions. Enfin, moi personnellement, j'avoue que c'est un professeur de physique chimie au collège qui m'a qui était passionné, qui nous a montré le côté amusant et qui du coup m'a donné envie. Genre encore aujourd'hui, vraiment, je le remercie parce que si je suis là, c'est parce que c'est lui qui m'a donné goût et envie aux sciences. Et pareil, la communication, c'est grâce à des professeurs. Donc, genre, je pense aussi même nous, notre entourage. Quand on en parle, voilà, nous, comme on disait, à nos frères, à nos sœurs, parce qu'on découvre quelque chose, bah, c'est aussi donner envie sans peut-être pas aller diffuser vers tout le monde. Mais déjà, si on fait ça dans notre entourage et que chacun fait ça dans son entourage, bah, ça va créer des passions pour la science ou pour la communication, enfin, à mon humble avis en tout cas.
Vu qu'on est en train de faire le panorama un petit peu de la culture scientifique, j'aimerais quand même mentionner, parce que pour moi ça a compté beaucoup aussi, les centres de culture scientifique, la Cité des sciences à Paris et le Palais de la Découverte, qui ont été le contact avec les médiateurs, les expositions, le fait qu'il y ait des choses réservées aux enfants, on puisse toucher, on puisse expérimenter, apprendre en faisant. Il n'y a rien de mieux pour s'intéresser à un sujet, se poser des questions et... foutez vos enfants dans des musées, mettez-les dans des centres de culture, faites-leur manipuler, posez des questions. C'est comme ça qu'on devient curieux et qu'on continue à l'être. Donc merci à tous ces centres, merci à la Cité des sciences, merci au Palais et à tous ceux qui existent, parce que je pense que ça crée aussi les scientifiques de demain, bien sûr.
Isaac Newton, and science, Easy. A Ben Franklin with a kite, a getting no of the old fable.
Cause I've been jumping the new science, and I've been kicking the new canalis.
And I see to a degree that you can't get in college.
Now the dregs
of the earth
and the eggs that I eat, I got
pegs through my
hands,
airborne through my
feet. Shade stadium, the radium,
E and D square,
kick out of the palladium. Do you think that I can't? It's the sound of science, the sound of science.
Right, my name's Yao.
Constantly on, constantly on, the fountain of youth, not Robotron. This is a word of word before, so move and move upon the dance floor.
I'm gonna die, gonna die one day, cause I'm going and going and going this way.
I did not sniff the coke, I only smoked the sensi mila.
Well, oh, if I know, I know, I will go, I still wanna live a mind. And that's quick, we broke, I got science for any occasion.
Postulating theorems, formulating equations.
Well, teachers, it's no blizzard. Eat a chicken, kiss it with a girl named Lizzie.
Dropping science like Galileo dropped the orange.
C'était Sounds of Science par les Beastie Boys.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Du coup, je vous propose de passer à la dernière thématique, justement, qui est la question de la vulgarisation sur Internet. Et puis là, je pense qu'on peut commencer par laisser la parole à Dunia, vu que c'est ce que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce qu'on l'a déjà mentionné, quelles sont les spécificités aujourd'hui de la vulgarisation sur Internet qu'on n'aurait pas, par exemple, dans la vulgarisation en présentiel dans les musées ou les CSTI, ou encore dans les ouvrages, qu'ils soient des bouquins ou des médias plus mainstream, pour parler de l'anglais, ou plus vieille école?
La plus grande différence pour moi, du coup, est quand même l'accès au public. Les médiateurs et les médiatrices qu'on peut retrouver dans les centres de culture scientifique ou pendant les fêtes de la science, il y a un échange. Il y a peut-être souvent même des objets, une expérience en cours. On a un support différent pour s'exprimer, pour faire de la vulgarisation. Il y a un échange avec le public. Les vulgarisateurs et vulgarisatrices, c'est un petit peu comme une bouteille à la mer. C'est, voilà, je vais vous parler de ça et vous allez me dire ce que vous en pensez un petit peu. Vous allez me laisser un commentaire, vous allez me dire un petit peu ce que vous avez compris. On peut continuer à échanger, mais ce sera toujours après. Elle est peut-être là la véritable différence, je trouve, dans un rapport différent de la vulgarisation, parce que les médiateurs et les médiatrices font de la vulgarisation, mais ont un échange avec le public, ont des pratiques différentes. Il y a des échanges, il y a des choses, des compétences qui se regroupent. Des vulgarisateurs ou des vulgarisatrices sur YouTube doivent aussi tout simplement apprendre techniquement à se servir d'une caméra, faire du montage, écrire un script, parler tout seul face à une caméra et essayer d'être le plus intéressant possible. Je vous jure que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce sont des compétences propres qu'ils ont développées au fur et à mesure et le plus souvent tout seul et toute seule. C'est appris sur le tas. On pose des questions sur Internet, on pose des questions à Twitter, on essaie de contacter ce gros YouTuber où on a peur qu'il ne nous réponde pas et en fait qui peut être quelqu'un d'absolument adorable, qui va vous conseiller sur comment parler face caméra, comment écrire un script. Et c'est comme ça qu'il y a une communauté de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui se crée, notamment, bien sûr, au sein du Café des Sciences.
Ouh, le placement de produits. Virginie, Clémentine, Sabrina, est-ce que vous êtes consommatrice de vulgarisation sur Internet ? Premier élément de question. Et vous, de votre point de vue, quelle spécificité vous y voyez par rapport aux autres champs de la vulgarisation ?
Pour répondre à la première partie de la question, effectivement, moi je suis beaucoup... j'ai énormément d'abonnements sur ma chaîne YouTube pour les vulgarisateurs. Je ne les nomme pas parce qu'il y en a vraiment énormément. Enfin, il commence à y en avoir de plus en plus. Une réponse qui peut être apportée, c'est que c'est beaucoup plus... Je la trouve plus accessible. C'est-à-dire que la vidéo, elle est là, elle est sur la plateforme. J'ai besoin d'y revenir, je vais y revenir. Alors qu'effectivement, avant, on avait Il était une voix la vie, etc. On avait des émissions à la télé, mais on n'avait pas cette facilité de voir des replays. Et du coup, ça aide vachement à se dire, là, j'ai vu cette vidéo, elle est vachement cool. Ah, j'aimerais bien revenir parce qu'il y avait une notion que j'ai oubliée. Donc, je vais pouvoir retourner sur la chaîne en question, puis je vais pouvoir aller revoir la vidéo, revoir le concept. Peut-être qu'après, derrière, je vais aller voir un autre vulgarisateur, une autre vidéo, etc. Je trouve que ce côté de... pour moi, les plateformes comme YouTube, ça va être vraiment cette accessibilité de la connaissance.
Je suis genre juste totalement d'accord avec Virginie dans le sens où, grâce à Internet, aujourd'hui, on a cette facilité de... Je me pose une question, moi, la première, je me pose une question, j'ai envie d'avoir la réponse, tout de suite, je vais aller fouiller pour avoir des vidéos, des ouvrages, des références de personnes pour chercher, en fait, à m'instruire, avoir cette curiosité. Je dis pas que je deviendrai une professionnelle, mais j'aurais répondu à ma question, je serais ressortie avec une info en plus aujourd'hui. Et je pense qu'il y a ce côté d'Internet qui facilite, où avant, fallait peut-être justement attendre l'émission ou attendre d'aller à la bibliothèque. Donc il y a ce côté qu'apporte Internet de avoir tout de suite et répondre à nos questions tout de suite.
J'aime bien aussi le côté effectivement efficace, on va dire. On peut aller chercher l'info rapidement, on peut revisionner des passages qui nous plaisent et tout ça. Ce que je vois beaucoup, ce que je trouve d'intéressant avec l'outil média, c'est que, par exemple, on peut montrer des films de la modélisation, on peut commenter des choses de manière assez vivante, finalement. C'est des choses qu'on essaie de mettre en pratique, par exemple, depuis qu'on fait les cours en ligne à la fac, là, c'est moins facile. Mais du coup, je me sers beaucoup plus de support. Je vais aller chercher des vidéos, parce que je suis du Sud, mais je parle beaucoup avec les mains. Donc, quand je fais mes cours, je me sers de mes mains, je fais des mimes, je fais des... Donc j'essaie de rendre le cours vivant de cette façon-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué derrière un écran. Et je trouve que l'apport de la vidéo et finalement le côté numérique permet vraiment ça et donc ça c'est assez bien. Et après on va citer, on dit des fois je mets sur nos documents, je mets des petites vidéos, je cite, je dis allez voir ça, c'est tel youtubeur, faut pas hésiter.
Un autre aspect auquel j'ai pensé pendant les discussions également, c'est que un vidéaste ou vulgarisateur de l'Internet, on va dire, va essayer d'incarner aussi une position de un personnage, une personne, voire un rôle. Et ça va créer un lien très différent du médiateur ou de la médiatrice, mais qui va créer un lien un peu de proximité et presque de conteur. C'est « Regardez, aujourd'hui, je vais vous raconter ça ». Et c'est une personne qui continue, entre guillemets, à vivre sur les réseaux sociaux, par les commentaires. Et c'est vraiment, on a une incarnation et pas juste une présentation du savoir, d'un fait, qui a un lien différent, pas physique, virtuel du coup, de ce qu'on peut voir pour la médiation classique. Et c'est totalement complémentaire, et c'est ça qui est génial. C'est des façons différentes de faire passer le savoir, et c'est totalement complémentaire, et pas du tout en opposition, surtout pas.
Avant de, pour conclure, je vais vous laisser la dernière fois la parole, même si c'est surtout vous qui parlez plus que moi, afin de vous dire un dernier mot de la fin peut-être sur aujourd'hui, qu'est-ce que vous devriez souhaiter à la vulgarisation scientifique Clémentine, pour commencer, si tu devais expliquer quelque chose à la vulgarisation, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, peut-être quelque chose d'assez bête, mais juste d'entraîner, on va dire, plus de monde dans son siège, que ce soit du côté des vulgarisateurs, mais aussi du côté juste des personnes qui ont envie de s'instruire, qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit curieux, qui ont cette petite envie de donner ou de recevoir dans ce sens-là.
Sabrina, pour ta part ?
Si je devais dire un seul mot, je pense que c'est le mot partage que je choisirais, parce que pour moi c'est ça la vulgarisation, c'est vraiment le partage des connaissances, mais également une sorte de un partage de aussi d'état d'esprit, de savoir, de savoir-faire, et voilà. Donc c'est quelque chose qui c'est une belle valeur en fait.
Virginie, pour ta part.
Du coup, pour moi, la vulgarisation, j'aimerais bien que ça amène encore plus de curiosité auprès de tout le monde et surtout beaucoup d'émerveillement parce que les sciences, elles ont vraiment énormément de choses à nous apporter dans la vie de tous les jours.
Et Dunia ?
Moi, je vais dire reconnaissance. Reconnaissance parce que c'est des compétences, c'est un métier, c'est quelque chose qui doit vraiment être reconnu matériellement, financièrement, sur le CV, sur la contribution que la vulgarisation peut apporter à la société, au lien que ça peut avoir avec les questions qu'on se pose, et que toutes les personnes qui font de la vulgarisation sont très nombreuses. Il y en a qui en font leur métier, mais les profs aussi sont des vulgarisateurs, les médiatrices sont des vulgarisatrices, et on est tous un petit peu vulgarisateurs en l'âme, et ce partage de connaissances doit être reconnu à part entière et indispensable aujourd'hui.
Je vais me permettre de faire le tout dernier mot. Merci à vous quatre d'avoir été présentes ce soir avec nous pour discuter de ce sujet passionnant qu'est la vulgarisation. Cette visioconférence est la dernière de notre cycle pour l'année 2020, mais on reviendra sûrement en 2021 avec tout autant de sujets que j'espère passionnants. D'ici là, je souhaite aux personnes qui nous regardent une très belle soirée et puis à l'année prochaine sûrement. Au revoir.
Au revoir.
Wow. Au revoir.
Au revoir.
How you doing?
I don't know.
What you mean?
Sometimes it's hard to show.
What's the matter?
No.
Don't you talk to
I
me.
Don't know.
Whenever you're in trouble.
I got no money. I got no job. Those things start to bring me down. I had some chances, but I blew it. And now I'm really screwed. I got so much trouble and I lost count. Choices to make.
Something that I want.
I got choices to make.
And something that I need.
Choices to make.
Something that I want.
I got choices to make.
Something that I need.
I can't grab it. It's just too hard. It's just too hard for me. I try my best and I'm gonna reach up higher, higher. Damn, I need some trampoline. All the people give everything they want, but I don't seem to get anything at all. I need some, 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 I need some.
Money to make you happy. Make your own money.